Quel enfer, quel gâchis, quelle perte de temps. Non, non, je ne parle pas du mandat d'Emmanuel Macron, mais bien de cette trêve internationale de novembre. J'aimerais bien rencontrer un jour le mec qui a eu l'idée d'en mettre une à ce moment-là. Sûrement le même type qui porte des chemises blanches en soirée ou le genre d'énergumène qui a voté pour Javier Milei en Argentine. Qui s'est levé un matin et s'est dit que ce serait une bonne idée de mettre ces matchs en bois à la pire période de l'année? Car oui, j'ai oublié de prévenir la FIFA, mais pour beaucoup, le foot est quand même un bon antidépresseur. Et donc nous infliger ça alors que les jours raccourcissent pour ne durer que 4 heures et que Darmanin est toujours ministre, c'est une insulte totale. Car oui, j'ai pas peur de l'assumer en tant que bon beauf quand je suis au plus bas moralement, souvent à cause d'une gueule de bois, souvent le dimanche aussi. Ce qui me réconforte au fond des draps, c'est pas le dernier concours, c'est pas un film d'auteur hongrois. C'est un bon vieux choc de première ligue. Un Everton Luton, je prends. Le multiplex de 15h de Ligue 1, je prends aussi. Mais devoir errer toute la journée en slip pour attendre un 0-0 entre l'Italie et l'Ukraine, non, c'est pas correct. Et si vous croyez que voir les Bleus mettre un 14-0 à une équipe de facteurs et de profs de maths, c'est du divertissement, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Outre ma santé mentale, cette trêve va remettre à nouveau sur la table le sujet de la santé des joueurs. Car même s'ils sont payés cher, on n'est pas encore sur des animaux de cirque. Et vu les blessures qui sont tombées en cascade, vous pouvez être certain qu'on va revoir Klopp gueuler en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni deviser avec Mouloud Achou remplissant des yeux, et Adil Rami sortir une vanne pas drôle sur Prime. Camavinga, Gavi, Oyarzabal, Vinicius pour ne citer que, si ce n'est que cela va venir affaiblir un peu plus mon équipe MPG en Liga, championnat de mort, il n'y a déjà aucun joueur correct, ça ne va arranger personne. Ni les instances qui vont encore se faire taper dessus, mais bon, là pour l'instant ils boivent du champagne à Stadt, ni les clubs qui vont être amputés de joueurs majeurs et les joueurs eux-mêmes qui vont être freinés dans leur progression pour des matchs sans enjeu. La question devient urgente de repenser notre système, d'alléger l'emploi du temps des joueurs, des équipes, car si on pousse un petit coup de gueule léger là tout de suite, on parle quand même de la santé de mecs qui nous font rêver assez souvent, nous aident à passer novembre. Et si on peut éviter de les casser pour le restant de leur jour pour une histoire de fric et de droit télé, et pas se taper tous les ans des déclarations comme celle de Baptiste Touta qui ne supporte plus la douleur en post-carrière, rappelons-nous qu'ils sont humains. Et même si ça permet à Kiki d'améliorer ses stats personnels, ces matchs n'intéressent personne. La bise, Gianni et mon petit Séphérine. Bienvenue à tous dans cette maussade fin de mois de novembre. Il est un peu horrible, je trouve, ce petit instant entre le début du froid et le début des fêtes. Genre, il n'y a rien pour tenir le coup moralement. On se fait quand même vraiment chier. On dirait une adolescence à Auxerre, en fait, mais 3 semaines. Toi, heureusement, tu y as échappé, Flo ?
Ouais, moi j'y ai échappé. Écoute, je suis comme toi, je partage la douleur de cette trêve hivernale, de cette trêve de novembre.
Ah non, c'est horrible, en vrai, c'est long, putain.
C'est long et en fait ça pose la question, ça répond pas forcément à la problématique parce que ça sera encore plus long, mais à minima pour les blessures de la refonte du calendrier, je dis pas que ça sera la solution et qui réglera tous les problèmes, mais ça permettra aux sélectionneurs d'avoir plus de temps avec leurs joueurs et aux joueurs de faire moins de déplacements et potentiellement moins de blessures.
Ouais, c'est ça, et ce sera un bon début. Là j'ai l'impression qu'on avait déjà eu une trêve il y a 2 semaines et demie, quoi, donc tu te demandes pourquoi.
Exactement. Et puis si tu vois, si cette trêve, si on rassemble 2-3 trêves en mois de juin, bah peut-être que ça sera moins douloureux, il fera beau, on aura peut-être 2 trucs à faire que de garder un frangibarda ridicule.
Ouais, c'est ce que je me dis. Et avec lui, évidemment, du coup, pour l'accompagner, le patron, celui que je n'ai plus le droit de vanner sur son club de cœur, car évidemment, Rennes leur a offert leur première victoire. D'un autre côté, une victoire de Rennes, vous avez débarrassé de Rudy Garcia, une victoire de Lyon nous enlève Genesio, finalement, c'est un peu un échange de bons et loyaux services.
Depuis la victoire de Rennes, vous avez aussi débarrassé de Bruno Genesio à l'époque avec un magnifique but de Ramiz Bensebaïni. Ouais,
ah évidemment. Oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai qu'on se vire souvent nos entraîneurs en fait. Et après, on les récupère.
Exactement. Et pour revenir sur ce que vous disiez, les gars, moi, je suis assez d'accord avec vous. En plus, j'ai l'impression qu'on arrive toujours dans un creux un peu sportif. Alors là, j'ai l'impression que c'est particulièrement vrai cette année. Ouais. Mais c'est aussi la période où les premiers groupes de Ligue des Champions sont un peu joués. Les championnats, il y a les premières fatigues qui arrivent dans les championnats. Ça n'a aucun intérêt de regarder des matchs internationaux, donc j'ai l'impression qu'on arrive vraiment... la refonte du calendrier est légitime, je trouve, pour cette période où on se fait chier, quoi.
Ouais, et puis après, on disait aussi en off, avant le début de l'émission, que de toute façon, cette année, on se fait chier en général.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est même une période de creux sportif général, même oui, si on élargit aux champs du foot. La saison de tennis est terminée, la saison de F1 est terminée, la saison cycliste est terminée.
Il y a le basket.
On est obligé de se manger du top 14 pour respirer un peu, c'est dur quand même.
Ouais. Tout ça pour dire, on s'emmerde. Bon allez les gars, on va pas perdre de temps. Une fois n'est pas coutume pour cet épisode, on va se diriger chez nos amis les teutons. Bienvenue dans cette grosse bourgade de Stuttgart. Alors vous vous doutez bien que c'est pas moi qui ai eu l'idée en pleine déprime automnale de parler d'un club où l'attaquant vedette n'est autre que Serhou Guirassy, ex-joueur rennais qui n'a jamais foutu un pied devant l'autre chez nous. Mais quand cette idée fut proposée, force est de constater que c'était intéressant. On s'est dit, au début, il y a de quoi gratter. Et nous, chez Poteau Carré, on aime bien gratter. Bon, là, on a gratté, il n'y avait pas tant que ça à gratter. Mais le club de la ville presque voisine de Strasbourg, outre le fait qu'il commence à être un petit peu plus qu'un tube de la rentrée, nous intéresse quand même dans certains, sur certains points. Et avant toute chose, comme vous en avez l'habitude, on va revenir gentiment sur l'histoire de cette ville. Qui veut commencer, les gars ?
Bah écoute, je propose de commencer sur Stuttgart. Stuttgart, faut bien se rendre compte, on va rentrer dans l'aspect sportif un peu plus tard et l'historique, mais c'est grosso modo la 4e-5e ville allemande. C'est vraiment une de ces quatre grosses villes allemandes et qui est aussi le berceau de l'industrie et particulièrement de l'industrie automobile en Allemagne. C'est là qu'évidemment il y a le siège de Porsche, le siège d'Audi, le siège de Daimler, le siège de Mercedes-Benz. Il y a aussi une entreprise comme Bosch, donc sur une autre industrie, mais qui est très présente dans la ville. Et c'est ce qui fait que cette ville et cette région du Bad Württemberg a été toujours, toujours très prospère économiquement. Et ce qui donne aussi aujourd'hui à la ville un attrait qui n'est pas que industriel, puisqu'il y a vraiment cet argent qui coule dans ce coin de l'Allemagne, dans ce sud-ouest de l'Allemagne, à la frontière entre la France et la Suisse. Et c'est aussi une ville qui est très tournée vers l'art, qui est très tournée vers beaucoup d'autres aspects que le sport. Et c'est aussi ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de grand club qui s'est implanté dans cette région-là. Il y a évidemment Karlsruhe qui n'est pas loin. Il y a Hoffenheim qui s'est bien implanté ces dernières années, notamment avec le chef de SAP qui est dans cette région du Bade-Württemberg. Mais voilà, c'est aussi pour ça que ce n'est pas forcément le cœur sportif de l'Allemagne, contrairement à la Bavière. Pour autant, il y a un foyer de population qui est énorme. C'est 11 millions d'habitants, le Bade-Württemberg, dont presque 650 000 rien qu'à Stuttgart et dans sa banlieue. Donc, un endroit très, très économiquement prospère et géographiquement super bien situé en Europe.
Et c'est pour ça qu'on y boit de la bière aussi.
Qu'on y boit de la bière et du vin. C'est la deuxième grande fête de la bière après l'Oktoberfest de Munich, mais c'est aussi la plus grosse fête du vin, des vins assez réputés dans le coin.
Bah, ils ont raison, ils sont pas loin de l'Alsace, ils auraient tort de s'en priver. Val, exactement. Tu veux enchaîner ?
Peut-être plus sur la partie sportive du coup, historique du club, le club de Stuttgart, le VfB Stuttgart. Alors il faut savoir qu'à la base c'était un club de rugby qui a été fondé assez tôt en 1893 jusqu'en 1909 où le club devient un club de foot parce que, alors ça m'a fait bien marrer moi, parce que les supporters ne comprenaient rien aux règles. Donc déjà à l'époque il y avait des gens qui comprenaient rien au rugby et vraiment voilà, ils comprenaient rien à ce sport tout pété qu'est le rugby où on comprend absolument rien. Bref, en 1933, ils emménagent pour la première fois au stade Neckar, qui est aujourd'hui le stade, qui est encore aujourd'hui le stade du club. Et puis, bon, il faut savoir que la Bundesliga va se professionnaliser et le championnat allemand va se professionnaliser vraiment qu'à partir de 1963 et devenir un club national, enfin un championnat national, pardon. Avant ça, le club a quand même eu quelques succès régionaux, mais c'est vraiment à partir de 1963 qu'on peut véritablement commencer à comptabiliser les titres et les victoires du VfB. Et justement, vas-y.
Non, juste sur le stade, t'as parlé du stade, j'ai vérifié l'info parce que je l'avais vu traîner en faisant quelques recherches. 1933, c'est quand même pas une année très innocente en Allemagne.
Non, c'est vrai.
Le premier nom du stade, c'est le Adolf Hitler Kampfhafen.
Ah ouais.
J'ai pas l'accent. Ah bah je le lis comme ça.
C'est marrant, c'est pas écrit comme ça sur leur page Wikipédia.
Non, c'est énorme, mais bizarrement.
C'est une petite maudite. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai pas fait le lien dans ma tête. Normalement, ça vient plutôt vite ce genre de choses, mais là, je l'ai pas fait.
Oui, c'est vrai que si t'as un stade qui se construit en 33, ça vaut le coup de taper 2-3 lettres sur Google. Quoi.
A priori, le ruban, il a peut-être été coupé au ciseau par un mec pas super bien respectable. Quoi.
Enfin bref, du coup, pour revenir sur le club. Le club va faire partie des 16 premiers clubs à accéder à la Division 1 en 1963 quand la Bundesliga passe professionnelle. Et justement, à cette époque-là, c'est un joueur français qui est un petit peu la star de l'équipe. C'est Gilbert Gress qui est un Strasbourgeois.
J'ai un poster dans ma chambre.
Bah non, mais tu rigoles.
Mythique entraîneur de Strasbourg, qui a un titre.
Et qui est un des mentors de Arsène Wenger surtout.
Ouais, et il s'appelle Gilbert Gress, ce qui était quand même plus ou moins ton surnom dans les fast-food à une époque, Val.
Putain, Pourquoi à une époque, pourquoi plus aujourd'hui?
Parce que je sais que tu t'es repris en main, mon salaud.
Enfin bref, du coup, pour revenir à la culture du club, c'est quand même un club qui est très axé sur la culture locale. Et c'est un peu ça qui va lui faire tourner le, qui va lui faire manquer le tournant du professionnalisme, notamment dans les années 70, où tu as les premiers contrats de sponsoring qui arrivent au club, enfin qui arrivent dans les clubs de Bundesliga. Et c'est pour ça que le club va se retrouver pas mal en difficulté au milieu des années 70.
Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant cette difficulté, parce que juste avant l'arrivée du professionnalisme et de la refonte du championnat qui était avant basé beaucoup plus, tu le disais Val, sur des championnats régionaux et de Länder, Stuttgart était un club dominant. Stuttgart a été deux fois champion en 50 et 52 et gagne deux Coupes d'Allemagne aussi à cette période-là dans les années 50. Donc c'est à ce moment-là un des plus gros clubs allemands qui fournit pas mal d'internationaux aussi à l'équipe d'Allemagne de l'Ouest qui va notamment aller chercher une Coupe du Monde. Et effectivement, le professionnalisme, ils prennent moins le pli.
Et du coup, au milieu des années 70, je reviens là où j'en étais, il y a un nouveau président qui va arriver qui s'appelle Gerhard Mayer-Werfelder, qui va rester pendant quasiment 25 ans et qui va restructurer le club, notamment en s'appuyant justement sur ce localisme, en s'appuyant énormément sur le centre de formation. Alors, il y a un court passage en deuxième division à ce moment-là, mais ils vont remonter assez rapidement et ils vont même remporter leur premier titre au début des années 80, puisqu'ils vont remporter donc leur premier championnat professionnel, du coup, puisqu'avant la Bundesliga, c'était pas professionnel, en 1983. Et puis ensuite, il y a un nouveau titre en 1991 avec des belles épopées européennes, notamment dans les années 80. Il y a une coupe de l'UEFA, si je dis pas de bêtises. Une finale de coupe de l'UEFA, si je dis pas de bêtises.
Il y a une finale de coupe de l'UEFA en 1989 qui joue en aller-retour. Ils perdent 2-1 à l'aller, ils font 3-3 au retour face au Napoli de Maradona.
Voilà, c'est ça exactement.
Ah, donc on est loin d'être sur un club anodin dans le paysage footballistique allemand. C'est juste nous, pour notre génération là, Stuttgart, c'est quand même pas grand chose dans les années 2000.
Non, effectivement, dans les années 2000, il y a cette époque 80-90 où ça tourne bien, mais les années 2000, il y a un plus gros creux. Je crois qu'ils font une finale où ils sont vice-champions en 2003, il me semble. Mais ils ont surtout ce titre de 2007 qui vient un peu de n'importe où. On est sur la période un peu le creux du Bayern. Il y a Schalke qui est très haut et Schalke finit à 2 points de Stuttgart en fin de saison, donc 2006-2007, et Stuttgart est champion. C'est son 3e titre et dernier à ce jour de champion d'Allemagne.
Si je dis pas de bêtises, le Borussia finit même à égalité et Stuttgart est champion avec à la différence de but.
Là, faudrait revérifier. Il me semblait, quand j'avais regardé, il me semblait qu'ils avaient fini à 2 points, que Schalke avait fini 2e à 2 points. Mais peut-être. Et en tout cas, ce titre 2007, il s'appuie notamment. Enfin, c'est vraiment un titre qui vient de. C'est une énorme surprise, et peut-être que ça, je ne suis pas sûr que ça fasse écho à ce qui va se passer cette saison, mais forcément ça met l'idée dans la tête des gens et des supporters. Mais c'est notamment avec une génération qui est amenée par des joueurs assez emblématiques du club, des formés au club comme Sami Khedira qui était dans sa première saison pro où il a vraiment percé, Mario Gomez qui était aussi encore assez jeune et formé au club. À côté de ça, il y avait un joueur comme Kakao. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Il est encore aujourd'hui au club.
Exactement, qui est toujours dans la direction. Et Marcus Babel, qui était le défenseur, je crois, qui était dans sa dernière saison, qui a aussi joué au Bayern, il me semble, et qui était allé chercher ce titre. Donc 2007, c'est vraiment l'îlot un petit peu au milieu de ces années 2000.
Mais il y a toujours eu des joueurs assez importants qui sont passés par le club. Hein. Dans les années 90, on ne les a pas trop cités, mais il y a eu Giovanni Elbert, Joachim Löw a commencé sa carrière d'entraîneur aussi là-bas au club.
Jürgen Klinsmann qui a été assez important. Mais ce qui est marrant, c'est que même quand on prend 84, quand ils sont champions, la génération est emmenée par les frères Schuster, Karl-Heinz qui avait joué à Marseille et surtout Berndt. La génération qui est champion en 92, c'est Fritz Walter, mais c'est surtout Matthias Sammer qui est la star de cet effectif. Et ensuite, un peu à la fin des années 90, quand ils font une deuxième finale sur la scène européenne, pardon, en Coupe des vainqueurs de Coupe, qui perdent contre Chelsea, il y a un trio Balakov, Elbert qui avait joué à Lyon et surtout au Bayern après, et Bobic qui avait pas mal emmené. Donc il y a eu toujours des générations quand même assez, assez importantes et qui sont restées dans les mémoires du club.
Ouais, et puis de toute façon, c'est le bassin de population qui explique un petit peu ça, mais c'est aussi le système de formation. On va y revenir tout à l'heure un peu plus précisément. Avant de parler du coup de un petit peu qui dirige le club aujourd'hui, comment tourne le club, etc., Val, tu voulais nous parler dans une petite chronique Wikipoto du gang des Swabs. Qu'est-ce que le gang des swaps, pour ceux qui ne sont pas au courant?
Ouais, le clan des swaps, précisément. En effet, ouais, je me suis interrogé dans un premier temps sur ce que représentait du coup Stuttgart dans le football allemand. Alors, on en a un petit peu parlé, mais c'est quand même un des clubs les plus importants du pays en termes de palmarès, avec 5 titres de champion d'Allemagne, mais aussi structurellement un stade de plus de 60 000 places et aussi près de 72 000 socios affiliés au club qui font aujourd'hui du club le 8e à ce classement. Et dans l'imaginaire collectif aussi, il y a évidemment ce titre de 2007 dont on parlait qui a été acquis à la dernière journée. Pour moi, c'était face au Borussia, mais donc c'est à confirmer. Et aussi beaucoup de joueurs qui sont passés, Klinsmann, Lam, Mario Gomez. Mais il y a un truc qu'il est impossible d'évoquer, impossible de ne pas évoquer quand on parle du VfB Stuttgart, c'est l'héritage qu'il laisse actuellement dans le football allemand d'un point de vue du jeu. Pour comprendre là où je veux en venir, il suffit de remonter au milieu des années 80. Dans le village de Backnang, dans la banlieue nord-est de Stuttgart, il y a une rencontre qui va révolutionner l'histoire du football allemand. À ce moment-là, végète en 6e division allemande le petit club du VfL Kirchheim, dirigé par un certain Helmut Gross. À cette époque, un jeune passionné de jeu de 28 ans nommé Ralf Rangnick vient observer un match amical plutôt surprenant entre justement cette équipe de 6e division et le Dynamo Kiev de Valery Lobanovski, vainqueur de la Coupe de l'UEFA un an plus tôt en 1986. Ralf Rangnick va alors être subjugué par le spectacle proposé par ces deux équipes, des joueurs qui défendent en zone, un pressing collectif, le tout sous l'impulsion de leur entraîneur respectif. Score final, un partout. Un exploit pour Gross, un électrochoc pour Rangnick. Et c'est alors que ces deux-là vont se nouer d'amitié. Helmut Gross va prendre Rangnick sous son aile. En 89, Gross obtient un poste au VfB Stuttgart en tant que coordinateur des jeunes et embauche Rangnick l'année suivante en tant qu'entraîneur des moins de 19 ans, avec pour objectif de mettre en place leur philosophie de jeu commune à tous les échelons des équipes de jeunes. Résultat, en moins de 4 ans, 2 titres chez les U17 et 2 titres chez les U-19. La mayonnaise prend. Au même moment, la Mannschaft entre dans une période compliquée. Les Coupes du Monde 94 et 98 se soldent par une défaite prématurée en quart de finale. Les Euros 2000 et 2004 s'arrêtent dès le premier tour. Et même si elle performe à l'Euro 96 et à la Coupe du Monde 2002 en atteignant la finale, le jeu ne convainc pas. Face au refus de Stuttgart d'élargir cette mentalité de jeu à l'équipe senior, Rangnick quitte alors le club et exporte ses principes à Ulm. Durant cette aventure, il est interviewé à la télévision pour expliquer ses préceptes, mais dans une Allemagne conservatrice pas encore consciente de ses besoins de renouvellement tactique, Rangnick est moqué. Dans les années 2000, sa réussite avec Hanovre, Schalke, puis surtout Hoffenheim, ainsi que la qualité du jeu déployé, vont forcer la fédération allemande à une véritable remise en question. Une grande réforme est mise en place au niveau de la fédération, avec une large refonte tactique du modèle allemand, qui va d'ailleurs beaucoup s'inspirer de la formation française, idolâtrée quelques années plus tard par Ralf Rangnick. Ralf Rangnick qui continue d'ailleurs son ascension à Schalke, puis à Leipzig dans les années 2000, où son modèle de jeu et d'organisation de club deviennent alors une référence dans le football européen. Au même moment, l'Allemagne remporte sa 4e Coupe du Monde sous les ordres d'un Joachim Löw dont la carrière d'entraîneur a débuté à Stuttgart en 1996, évidemment sous l'influence d'Helmut Gross. Et à côté de ça, Leipzig remonte en première division en 2016, période à partir de laquelle les entraîneurs passés par la Galaxie Red Bull comme Nagelsmann, Marco Rose ou Sébastien Hoeneß, dont nous allons parler dans quelques minutes, s'arrachent dans toute l'Europe, et tandis que d'autres maîtres tacticiens comme Tuchel ou Klopp clament s'être inspirés des travaux de Rangnick. Le Gegenpressing devient alors le maître mot des clubs de Bundesliga et les dérivés du système Gross-Rangnick prolifèrent à travers l'Europe. Le clan des Swabs, c'est désormais comme ça qu'on appelle cette nouvelle génération d'entraîneurs allemands, directement inspirés des travaux de Rangnick et Gross, et qui fascine toute l'Europe depuis une dizaine d'années désormais. Le tout en étant le fruit d'une rencontre dans la banlieue de Stuttgart.
Ouais, donc c'est ce qu'on disait. Moi, je préfère dire le gang que le clan. C'est plus classe. Tout ça pour dire que de toute façon, voilà, même on va dire que si Stuttgart ne laisse pas une empreinte dingue dans l'histoire du football des années 2000, ce sera déjà fait avec les entraîneurs et la philosophie de jeu qu'ils ont mis en place et qui inspire beaucoup de coachs, parce qu'en fait finalement aujourd'hui, même en France, en Italie, en Espagne, on voit qu'il y a beaucoup de coachs qui s'inspirent des préceptes qui ont été mis en place par ce petit duo. Les gars, est-ce qu'on a quelques trucs à dire sur les dirigeants, les propriétaires du club de Stuttgart?
Bah avant ça, peut-être qu'on peut juste, on n'a pas complètement fini la partie historique, parce qu'on s'est arrêté un peu en 2007, mais il y a vraiment une partie entre 2007 et ouais, alors moi je l'aurais situé plutôt à partir de 2019, parce que justement j'ai une petite anecdote à ce sujet. Entre 2007 et 2019, le club va un peu descendre en termes de prestige. Alors avant, c'était vraiment un club qui a toujours été marqué par l'irrégularité, mais l'irrégularité avant se situait plus entre la 4e et la 10e place, on va dire, pour Stuttgart. À partir de 2007, on peut dire que ça va descendre d'un niveau. Et plutôt se caler sur la deuxième partie du championnat, entre la 10e et même plutôt des phases de relégation, puisque le club va descendre deux fois en Bundesliga 2 pendant cette période-là.
Juste au passage, ils ont connu que trois saisons dans l'histoire sans être en Bundesliga, sans être dans le premier échelon depuis la création du championnat, ce qui est quand même assez colossal.
Dont deux dans les 10 dernières années, donc ça illustre pas mal ce que je voulais représenter. Et justement, en juillet 2019, après la relégation, la deuxième relégation qu'il y a, que subit le club dans ces 10 dernières années, il y a une large assemblée générale qui va être en place. Le président de l'époque, Wolfgang Dietrich, va démissionner et l'entraîneur en question va être viré juste après cette descente. C'est Klaus Günther Vogt qui va prendre la présidence et Pellegrino Matarazzo qui devient entraîneur, dont on a entendu parler un petit peu après. Le club va remonter l'année d'après directement, mais en septembre 2020, il y a entre guillemets une affaire d'espionnage qui va venir bouleverser un peu l'organigramme, un peu une affaire d'espionnage, un peu, c'est pas vraiment de l'espionnage, mais un peu comme le PSG avait subi avec justement ces bottes là, pas subi puisque c'est le PSG qui en était à l'origine, mais en gros l'ancien board en place aurait transmis les données, donc les numéros de téléphone, les mails, etc., des socios du club à une agence de relations publiques qui aurait eu recours à des bots et des pages Facebook un petit peu reconnues dans le microcosme de Stuttgart pour justement ce qu'on appelle une espèce de guérilla marketing dans le but d'influencer les socios à céder notamment une partie des parts du groupe Daimler, donc le groupe Mercedes qui est très important dans la ville. Donc voilà, il s'était servi justement de l'influence des réseaux sociaux pour influencer les socios, et c'est un petit peu ce qui s'était passé l'année dernière là, avec le PSG, je ne sais pas si... Je sais que vous vous en rappelez.
À Lyon, il y avait eu ça aussi, non ?
À Lyon, il y a eu ça, le Barça aussi, c'est assez fréquent.
Voilà, mais le problème, c'est que ça arrive rarement dans les clubs allemands, et là, ça arrive dans un club allemand qui est quand même... les clubs allemands ne sont pas réputés pour ce genre de choses-là, mais ça avait généré un vrai tollé médiatique, et d'ailleurs, il y a une enquête qui avait été lancée auprès d'un cabinet d'avocats pour savoir comment ça s'était réellement passé, et ça avait déclenché un vrai jeu de pouvoir interne, dont était ressorti gagnant justement Klaus Vogt, qui est l'actuel président. Alors c'est compliqué là-bas, c'est compliqué en Allemagne la gestion des dirigeants, parce qu'il y a les présidents du club, il y a les présidents du conseil de surveillance qui ont des rôles assez importants aussi à chaque fois. Donc voilà, c'est Klaus Vogt qui était déjà président, qui est sorti indemne de cette enquête puisque visiblement il n'était pas responsable, et qui est lui encore aujourd'hui président du club.
Ok, donc on connaît le président, ou un peu comment ça fonctionne. Est-ce que on peut comprendre avec cette direction-là, pourquoi Stuttgart revient un peu cette année ou pas du tout ?
Moi, je serais tenté de dire
pas du tout, en fait. Parce que finalement, leur manière de bosser n'a pas beaucoup changé sur les 7-8 dernières années.
Non, je serais tenté de dire pas du tout. Effectivement, il y a ce côté très stable des clubs allemands où ils ne sont pas forcément en immense difficulté économique. Du moins, c'est le cas pour Stuttgart. Mais effectivement, il n'y a pas eu de grand changement dans la direction, il n'y a pas eu de grand changement de stratégie. Aujourd'hui, il y a un directeur sportif global qui s'appelle Fabian Wollermuth, je crois, quelque chose comme ça en tout cas. Je n'ai pas la prononciation exacte de son nom. Mais le club communique toujours sur le fait qu'ils sont depuis l'été dernier à la recherche d'un autre directeur sportif, d'une sorte de directeur du football qui serait sous le directeur sportif. Et pour autant, ils arrivent à continuer à très très bien marcher, cette saison.
Je crois que ce serait plutôt un conseiller sportif qui serait dédié à l'équipe première, notamment.
Exactement. Et c'est là-dessus où ils sont complètement à la recherche. Et malgré ça, malgré ce manque-là, ils arrivent à être très performants cette saison. Avec un effectif qui, je pense, même en interne, a surpris beaucoup de monde. Parce que on va revenir sur l'effectif un petit peu plus tard et les dernières saisons. Mais ces dernières saisons, ils sont, depuis leur remontée en 2020-2021, ils sont plutôt battus pour ne pas descendre. Même s'il y a une saison sous Matarazzo terminée 9e, mais la saison dernière, ils ont vendu presque leurs trois meilleurs joueurs. Ils ont vendu Sosa pour l'Ajax, qui a été vendu, je crois, pour 8 millions. Ils ont vendu Endo, surtout, qui était le patron du milieu de terrain et le capitaine pour Liverpool pour 20 millions. Et ils ont vendu Mavropanos à West Ham pour 15 millions. Donc c'est il n'y a pas eu d'achat majeur cette saison. Donc c'est vraiment pas forcément
c'est
une nouvelle
politique. C'est un peu un alignement des planètes, quoi.
C'est un alignement des planètes avec un effectif qui est presque, on pourrait presque penser qu'il serait moins qualitatif que la saison dernière. Pas de bouleversement, mais par contre, ouais, un alignement des planètes.
Moi, pour revenir sur l'équipe dirigeante, il y a quand même une certaine politique d'assainissement, j'ai l'impression, qui a été mise en place au club. Comme je l'expliquais avant, il y avait quand même tous ces petits déboires qu'il y avait eu quand on en vient à utiliser des pages Facebook pour essayer de convaincre les sociaux, c'est le conseil d'administration, c'est que quand même, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas très bien dans un club. Et justement, j'ai l'impression que Klaus Vogt a essayé de mettre en place un petit peu ça, justement suite à cette affaire qui avait eu tout le conseil d'administration, quasiment tout le conseil d'administration a démissionné, et il a été remplacé par des nouvelles personnes. Alors il y a Alexander Werle qui donc désormais est président du conseil de surveillance du club, qui est aussi président du conseil de surveillance de la Fédé allemande. Donc c'est quelqu'un qui a des postes à responsabilité, qui sait à peu près comment gérer un club aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de la compétence qui est arrivée dans ce club. Alors tu parlais de Fabian Wolgemurt, là, j'ai pas la prononciation non plus, c'est compliqué. Ouais. Ce mec-là avait pas été recruté pour être directeur sportif à la base. J'ai l'impression qu'il était plus censé gérer la cellule de recrutement. Il a pris du galon un peu dans le club de manière un peu inopinée, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas sur ce qui s'est passé. Il est arrivé en décembre 2022, donc difficile de juger, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner par rapport à ce qui s'est passé en tout cas cet été jusqu'ici. Donc je peux pas dire que tout ce qui se passe actuellement est grâce à cette direction, mais en tout cas il y a une politique d'assainissement qui essaie d'être mise en place aujourd'hui.
Il y a quand même des nouvelles têtes qui sont dans le coin.
Voilà, ouais. Et ils disent en tout cas tous que ça fonctionne, que ce trio entre Alexander Werle, Wolgemurt et Sébastien Hoeneß fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils s'interrogent. Tu dis qu'ils cherchent désespérément un nouveau conseiller sportif. Du coup, ils s'interrogent quand même sur savoir si c'est vraiment réellement nécessaire, parce qu'aujourd'hui ça fonctionne plutôt pas mal, en tout cas depuis 6 mois.
Ouais, et c'est marrant quand tu parlais de nouvelles têtes, parce qu'il y a des têtes qui sont arrivées nouvellement, mais qui sont pas non plus forcément des nouvelles têtes, qui sont pas encore dans les gros postes de la direction, mais plutôt comme des conseillers. Et c'est vraiment cette faculté du football allemand de savoir s'appuyer sur les anciens. Philipp Lahm qui a évolué, oui, je crois, 2 saisons au VfB Stuttgart,
en prêt,
est revenu. Ouais, exactement, en prêt du Bayern au début de sa carrière, est revenu au club dans un rôle de conseiller du président du conseil d'administration. Et Sami Khedira, qui lui a été formé au club, est revenu en tant que conseiller du comité exécutif. Pardon. Et il y a aussi Christian Gentner, pardon, qui est plutôt une ancienne star locale, plus qu'un grand joueur comme les deux autres, mais qui est revenu au club. Il y a Kakao aussi, qui est ambassadeur de la marque VfB depuis 2 ans ou 1 an. Donc voilà, cette faculté aussi à reprendre les anciens, et pas uniquement pour redorer son image, mais aussi pour apporter de la compétence et du vécu.
Et puis les clubs allemands, ils savent bien faire ça. On le voit souvent, notamment au Bayern, etc. Ils savent très bien s'entourer des anciens. Et en fait, parfois, on sous-estime en fait connement le simple apport de grands joueurs dans l'entourage du club, ne serait-ce que pour donner 3 conseils au président, dire 5 mots aux joueurs, ça peut insuffler des dynamiques qu'on sous-estime, notamment en France, s'ils voient ce que je veux dire.
Samedi 19 mai 2007, 63e minute de jeu, le VfB Stuttgart prend l'avantage de 2-1 face à Cottbus avant de s'imposer au terme d'une dernière journée folle qui aura vu Schalke 04 être virtuellement champion pendant 20 minutes pour finalement échouer à 2 points des Rotten. Un cinquième titre de champion d'Allemagne, le premier depuis 92, acquis à la 63e minute donc, grâce au coup de tête d'un gamin du club, inconnu en début de saison, Sami Khedira, tout juste 19 ans. Un sacre qui porte surtout le sceau de la jeunesse, avec un effectif à la moyenne d'âge d'à peine 25 ans, le plus jeune du championnat 2006-2007, et un record puisqu'il faut remonter au Borussia Mönchengladbach de 1974 pour trouver pareil exploit. Cette saison-là, dans l'ombre de Marcus Babbel ou de la légende brésilienne naturalisée allemande Kakao, le VfB impose ses jeunes formés au club. Outre Sami Khedira, une autre future star de la Nationalmannschaft crève l'écran. Mario Gomez, auteur de 14 réalisations en Bundesliga sur l'exercice. Et à leur côté, une tripotée de nombreux internationaux ou futurs internationaux. Le gardien Timo Hildebrand, les défenseurs Andreas Beck, Serdar Tachi, ou encore les milieux Tobias Weiss et Christian Gärtner. Leur point commun, tous ont donc été formés au club, 8 au total sur cette cuvée. À peine 2 ans plus tard, au printemps 2009, une autre équipe de Stuttgart attire tous les regards, non loin de Nantes, à l'occasion du très renommé tournoi mondial de Saint-Pierre. Mais cette fois-ci, les protagonistes n'ont que 13 et 14 ans. Il s'agit de Serge Gnabry et Timo Werner, ainsi que de Joshua Kimmich. Werner, pourtant surclassé, ne cesse d'enfiler les buts, alors que Gnabry martyrise les défenseurs et Kimmich n'étale sa classe dans l'entrejeu. Après avoir écrasé le tournoi, le VfB s'incline finalement à la surprise des générales en finale face au Slavia. Mais 14 ans plus tard, les trois hommes sont bien des piliers de la sélection allemande et chacun a soulevé la Ligue des Champions. 2007 et 2009, deux années marquantes mais bien différentes. Si le titre de champion des A en 2007 repose donc sur un effectif largement composé de joueurs formés au club, la classe biberon de 2009, les U13, n'auront pas marqué l'histoire de l'équipe Fanion, alors que seul Timo Werner n'aura porté les couleurs Rotten chez les pros. Gnabry filant à Arsenal et Kimmich au RB Leipzig, comme l'ont également fait Kerrer, Leno ou Batchtuber. Un triste constat qui ne doit pas cacher la réalité de la formation Rotten reconnue comme l'une des meilleures d'Allemagne et d'Europe. Il suffit en effet de regarder les noms de leurs illustres prédécesseurs, eux aussi formés au VfB, pour comprendre. Les champions d'Europe 1980, Karl-Heinz Foster et Hansi Müller. Sami Khedira, Mario Gomez, futurs internationaux allemands Kevin Kurani, Andreas Hinkel, Sebastian Rudi, Antonio Rüdiger ou encore Sven Ulreich. Une réussite qui doit, comme c'est le cas pour les trois stars actuelles, beaucoup aux Landes du Bad Württemberg, donc, dont sont originaires la majeure partie d'entre eux. Un poumon économique, berceau historique de l'industrie automobile allemande, de Porsche à Mercedes-Benz en passant par Audi, comme on l'expliquait, mais surtout parfaitement situé au sud-ouest du pays, au carrefour des frontières françaises et suisses, mais non loin de la Bavière ou de Francfort, autre pôle économique majeur du pays. Surtout, le Bad Württemberg est un bassin de population de près de 11 millions d'habitants, dont plus de 650 000 rien qu'à Stuttgart, ce qui fournit un véritable vivier pour le club ainsi que ses voisins régionaux Karlsruhe, Hoffenheim ou Fribourg. Un véritable atout, surtout pour le club, qui n'a cessé de miser sur son centre de formation, mettant en avant un style de jeu moderne, offensif et agressif, propre à la mentalité suave, sans schéma prédéfini, mais que suivent pour autant le staff de l'équipe pro de très près, au travers de réunions hebdomadaires avec les éducateurs de l'académie. Une académie justement qui mise aussi fortement sur l'individualisation de l'entraînement qui représente plus de 50% des sessions dès les catégories de jeunes. Et lors desquelles ces derniers sont directement impliqués dans le processus de décision et de planification ainsi que de la confection de leurs propres entraînements. Et ce, même lors des périodes sportives les plus compliquées comme ce fut le cas en Bundesliga 2. Les jeunes servant alors de moteurs sportifs au club autant que de valeurs financières, comme en attestent les ventes récentes. Jeunes et sauvages. C'est le slogan de l'académie du VfB, comme pour résister aussi face à la féroce concurrence étrangère et nationale, comme celle du Bayern, de Schalke, de Dortmund ou de Leipzig. Mais surtout une enceinte de formation qui promet aux jeunes de passer plus facilement de l'académie à l'équipa, et ainsi d'entrer dans le monde pro, comme en attestent les classements du CIES, qui place souvent le VfB dans le top 10 des meilleurs clubs formateurs d'Europe.
Ouais, du coup, les gars, on a parlé de l'équipe dirigeante, on a parlé des gens, des têtes qui tournent un peu autour de ce club et qui font tourner ce club. Il y en a un qui est très important, évidemment, c'est le coach, c'est Hoeneß. Flo, tu nous en parles un peu ?
Ouais, Sébastien Hoeneß, bah déjà, il a un nom qui est absolument pas innocent dans le foot allemand. C'est le fils de Dieter, donc qui était quand même
pas,
aussi...
Pas innocent à tous les niveaux. Hein.
Pas ouais. j'ai choisi le mot. Mais ne jetons pas l'opprobre sur son père, qui est Dieter, qui est aussi international allemand, qui est un des meilleurs buteurs de l'histoire du Bayern, lui aussi, et qui, lui, je crois, n'avait jamais eu de soucis avec la justice. Par contre, pour son oncle, Uli, qui est donc le frère de son père, là, effectivement, c'est différent en termes d'innocent. Mais voilà, il a un nom qui parle beaucoup et qui est difficile à porter dans le football allemand, surtout qu'il n'a jamais réussi à faire une carrière pro. Il a joué, il est passé un petit peu par Hoffenheim dans les équipes de jeunes, il est passé un petit peu par le Bayern aussi dans les équipes de jeunes, mais il n'a jamais eu une carrière réellement professionnelle. Je crois qu'il a joué au mieux en 3e division au milieu des années 2000. Donc pas une immense carrière. Et par contre, il a surtout fait sa carrière chez les jeunes au début. Tu parlais de ce clan des Swabs qui a notamment beaucoup
influé. Des Swabs, Flo.
Des Swabs, pardon. qui a beaucoup influé sur le groupe Red Bull et notamment du côté de Leipzig où il a été. Mais avant même d'avoir été à Leipzig, il commence à Leipzig avec les U17. Il passe ensuite avec les U19. Il grimpe U15 et U17 et U19. Ouais. Alors, et il grimpe un peu les échelons comme ça. Il prend en charge la réserve du Bayern ensuite, qui évolue en 3e division. Et c'est un peu le moment où il éclate vraiment, notamment aux yeux des dirigeants du Bayern et du foot allemand. Parce qu'il va faire un truc qui n'a jamais été fait, c'est qu'avec la réserve du Bayern, qui est essentiellement en plus composée de U19, notamment de Jamal Musiala, il va obtenir le titre, il va être champion de 3e division. Et c'est la première fois qu'une réserve est championne de 3e division dans l'histoire du foot allemand. Évidemment, la Ligue, la DFK bloque l'accession en 2e division parce que c'est le règlement à l'équipe. Mais c'est vraiment ce moment où ça va être marquant pour lui, où des clubs ont vraiment commencé à s'intéresser à lui.
Et puis c'est... quand on voit son parcours, on sait que c'est quelqu'un qui, enfin, on constate que c'est quelqu'un qui a pu s'inspirer quand même de beaucoup de d'inspirations différentes. C'est pas très, je suis désolé, c'est pas très beau comme phrase, mais quand on passe par Leipzig, club entièrement construit par Ralf Rangnick, justement par le clan des Swab, puis ensuite par le Bayern de Munich, juste après le passage de Guardiola, on apprend des choses. Et justement, lui, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de ces différentes écoles de football, et notamment de Guardiola, parce que lui, à la base, il est quand même très proche des préceptes de Guardiola, notamment sur les jeux de possession. Et voilà, et après on peut parler un peu peut-être de la suite de son parcours, qui va être plutôt un échec, parce qu'après après cette fameuse saison avec la Détroit du Bayern, il va prendre Hoffenheim pendant 2 ans, qui va pas forcément correspondre à son projet. Alors c'est quelqu'un qui est assez calme, lui il va faire face à beaucoup de blessures pendant ces 2 années à Hoffenheim sans jamais trop se plaindre, et ça va un peu lui retomber dessus, en mode peut-être un peu manque de caractère, justement de se retrouver dans le ventre mou comme ça, alors que Hoffenheim est quand même une équipe qui peut se permettre d'avoir des ambitions par rapport aux moyens technologiques qu'ils ont dans ce club. On avait fait une émission vers laquelle je vous renvoie d'ailleurs, mais voilà, c'est quelque chose qui va pas très bien fonctionner en tout cas pour lui à Hoffenheim, et il va être limogé du club à la fin de l'année 2022, et il va rester pendant quasiment un an sans club, où il va aussi permettre pour lui de se ressourcer avant d'arriver à Stuttgart, qui n'était pas le choix le plus simple en tout cas au moment où il prend le club, puisque le club était dernier du championnat avec 5 points de retard sur le premier non relégable, et c'était déjà le 3e coach de la saison. Donc voilà, il a fait ce choix.
C'est marrant qu'on se rend compte que finalement, du coach aux joueurs, on va pas tarder à venir à l'effectif, en fait c'est une équipe de rebuts, et en fait ils y arrivent tous ensemble alors qu'ils n'ont jamais forcément tous performé dans leur coin avant, quoi. On va parler justement de l'effectif. On disait de l'entraîneur aux joueurs. Il y a pas mal de noms, vous allez voir, qu'on a croisé d'anciens prospects, de joueurs qui sont passés par notre bonne vieille Ligue 1. Et au final, le tout foutu ensemble, et ça finit par marcher. Les gars, qui veut commencer pour l'effectif ?
Et moi, je suis chaud pour parler d'un joueur, en tout cas, pour commencer. C'est un joueur qu'on a entreaperçu très rapidement en France, c'est Enzo Millot, formé notamment à Monaco et qui a joué. Je pense même pas 5 matchs en pro avec Monaco, qui est parti à 19 ans.
Un prospect dans FIFA depuis à peu près 6-7 ans, pour ceux qui jouent à FIFA en mode carrière.
Exactement, qui a 21-22 ans, donc il y a encore un bel avenir pour lui. Comme son destin était un petit peu barré à Monaco, il a fait le choix judicieux, comme de nombreux jeunes Français, de partir en Allemagne. Et il a vraiment explosé. Et la saison dernière, Sébastien Hoeneß et Stuttgart se maintient en barrage contre Hambourg. Et il gagne 3-1 le barrage contre Hambourg, avec notamment un doublé d'Enzo Millot, qui avait été absolument monstrueux en tant que milieu de terrain central. Donc non, c'est vraiment c'est un des joueurs majeurs de cet effectif.
Est-ce que tu veux qu'on continue ligne par ligne, Jules ?
Ouais, plutôt ligne par ligne. Qu'on reprenne un peu, parce que moi ça m'intéresse qu'on parle un peu du gardien.
Par exemple, ouais, parce que tu avais envie de lui tomber dessus peut-être en début de saison, et puis finalement il revient à un niveau. Je vais crever l'abcès. Le gardien qui est donc Alexander Nubel, qui est l'ancien gardien de Monaco, qui avait été un flop monumental, présenté comme le nouveau Neuer, etc. Qui a donc signé cet été à Stuttgart, et qui a d'ailleurs a pas très bien commencé sa nouvelle aventure à Stuttgart, puisque je crois que dès le premier match, deuxième match, je crois, il fait une énorme bourde. Qui coûte rien, je crois, à son équipe, parce qu'au final l'équipe avait gagné, mais on se disait oh là là, ça va recommencer comme la saison dernière, ça va être une catastrophe. Et depuis, alors la transformation du gardien, les attentes du nouveau Neuer qu'on avait il y a quelques années sont revenues, parce qu'il a retrouvé un niveau qui est vraiment vraiment hyper intéressant, et ça fait partie des bonnes pioches de cet été pour l'équipe dirigeante dont on parlait tout à l'heure, surtout que le gardien de l'année passée, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, Florian Müller, qui est parti à Fribourg, avait plutôt été intéressant, donc on s'attendait par rapport aux performances de Nubel à avoir une petite perte de qualité, et en fait pas du tout, il est même venu carrément renforcer l'effectif.
Mais c'est marrant, hein, parce que c'est exactement ce qu'on dit depuis le début en rigolant, c'est que ce club de toute façon est un club,
c'est vrai,
quand on regarde l'effectif, qui ne fait que relancer des entraîneurs ou des joueurs.
Ouais, bah, c'est pas de la défense, hein.
En défense centrale, on a notamment Dan-Axel Zagadou, qui avait joué, qui avait pas mal joué du côté de Dortmund, et à un moment on y a beaucoup cru en se disant que ça pouvait même être à terme, qui a commencé très jeune aussi, hein, à 17 ans, avec son double maître.
Et Zagadou, on y a beaucoup cru parce qu'il avait l'étiquette PSG au-dessus de la tête aussi. Donc,
exactement, étiquette formation PSG. Quand tu joues aussi à 17 ans dans un club comme le Borussia, Dortmund, on peut dire que forcément tu vas avoir un bel avenir et ça a été très compliqué. En fait, plus il a vieilli, plus ça a été compliqué avec Dortmund, j'ai l'impression. Et il a fait le choix de partir à Stuttgart et on pouvait penser que sa carrière était un peu en difficulté. Et finalement, ce n'est pas le cas. Il s'est très, très bien relancé. En plus, à côté de lui, il y a un défenseur très, très solide du championnat allemand qui est Waldemar Anton, qui a été formé à Stuttgart, qui est parti en 2015 et qui est revenu en 2020 quand le club est remonté. Donc, qui est dans la force de l'âge, qui doit avoir 27-28 ans aujourd'hui, qui est le capitaine de cet effectif. Et je pense que ça apporte aussi beaucoup, beaucoup à Zagadou. Et pareil, il y a un autre défenseur, Mittelstadt, qui était le latéral gauche du Hertha Berlin, qui, comme de toute façon à peu près tous les joueurs du Hertha Berlin, était dans une immense difficulté ces dernières saisons. Et il commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. Et il s'est vraiment très, très bien relancé.
Faudra pas s'étonner quand ils vont signer Vincent Cosiello et Jean-Michel Seri, hein, par contre. Hein.
Ou Lucas Tuzard.
C'est vrai, exactement.
Et pourquoi pas Younes Belanda.
Mais Younes Belanda, c'est un bon joueur.
Ben oui, évidemment que c'est un bon joueur. Mais Seri fut un bon joueur aussi de saison.
C'est vrai. Oui, Seri, oui.
Est-ce que Val, tu nous parles un peu du milieu de terrain de cette équipe?
Je peux vous parler d'un joueur en particulier qui est Steeler, qui est justement un joueur que Sébastien Hoeneß avait eu, Angelo Steeler, pardon, je cherchais son prénom depuis tout à l'heure, que Sébastien Hoeneß avait eu dans sa fameuse saison en Détroit avec le Bayern, là, où ils avaient été champions. Il en avait fait son capitaine, et d'ailleurs Angelo Steeler, qui était le capitaine de l'Allemagne cet été en U21, et qui est un joueur qui a complètement compensé le départ de Endo avec un gros volume de jeu. C'est peut-être l'une des révélations cette année du club de Stuttgart, qui est encore là aussi dans un objectif de post-formation plutôt. Alors pas de la formation directement, mais plutôt de la post-formation, parce que c'est encore un jeune joueur. Mais voilà, un petit joueur à suivre clairement. Et un petit peu plus haut, sur l'aile gauche, il y a un joueur qui s'appelle Chris Furich. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est présenté un peu comme une sorte de Jack Grealish allemand, qui était déjà dans l'effectif l'an passé, qui avait quelques difficultés, notamment au niveau de la finition. Il avait des statistiques qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ce qu'il produisait sur le terrain. Et cette année, il est en train d'exploser. Encore un joueur dont on n'attendait pas forcément un rendement aussi efficace. Il est à 3 buts et 5 passes décisives, je crois, depuis le début de la saison. Et il a été sélectionné pour la première fois avec la Nationalmannschaft dernièrement.
Donc, ouais, malheureusement pour lui, il était dans la liste là et il était malade, donc il n'a pas pu jouer. Il a quitté le rassemblement.
Exactement. Et je vais laisser Flo parler du grand Serrou.
Avant Serrou, il y a quand même un joueur assez important, c'est Silas. C'est Silas qu'on a pu voir au PFC notamment les dernières saisons.
Je veux pas dire son nom de famille.
Alors, Silas Katomba Mvupa. Joueur congolais, ailier, très très rapide, qui avait fait une très bonne saison au PFC, notamment sa dernière saison au PFC avant de partir à Stuttgart, et qui continue de grimper les échelons. Donc, il y a un joueur très intéressant. Et du coup, ces deux ailiers, Furich et Silas, apportent beaucoup. Lui, il a 3 buts, 3 passes. Donc, on voit qu'on a quand même des ailiers qui font un super taf. Mais effectivement,
il avait ses problèmes de finition aussi l'an passé. Ouais, il corrige ça cette année.
Exactement. Mais effectivement, l'atout majeur de cet effectif depuis le début de saison, c'est Serrou Guirassy. De toute façon, c'est simple, il y a eu 3 défaites depuis le début de saison. Serrou Guirassy a manqué 2 matchs, 2 défaites, dont une contre Heidenheim. Donc on voit qu'ils n'ont pas forcément. Il y a vraiment une sorte de Guirassy dépendance. Il faut vraiment le dire. Je crois qu'il a mis.
Je ne pensais pas entendre dire ça un jour dans notre podcast.
Doubler, un triplé. Alors, je te trouve très dur, Jules, parce que sache que j'ai découvert cette stat magnifique. Serrou Guirassy est le meilleur buteur en Coupe d'Europe du Stade Rennais au XXIe siècle. Voilà, tu prends cette stat, oui, mais fais ce que tu veux.
Non, mais tu sais qu'il avait un très bon ratio à Rennes par rapport à son temps de jeu passé sur le terrain. Oui, c'est juste qu'en fait, tu peux pas commencer un match avec Serrou Guirassy parce qu'il n'a aucun apport dans le jeu. Donc en fait, pour rentrer et foutre son gros crâne à la 82e, il y a du monde, mais sinon il y a aucun rapport. Moi, je vais
ce
donner
qui est
une
dingue, c'est que c'est même pas vrai ça cette année.
Oui, mais bon, rien n'est vrai cette année. Tu veux que je donne une flop qui est terrifiante, parce que c'était pas vrai l'an dernier non plus. Je donne un truc qui est terrifiant. Serrou Guirassy, là, il a foutu 28 buts en 36 matchs en un an avec Stuttgart. Donc 28 en 36 matchs, tu notes. Avant ça, depuis le début de sa carrière, il en avait mis 63 en 227 matchs. Donc en fait, j'ai fait un calcul à la con. C'est que si il avait toujours été sur le même rythme que Stuttgart, il serait à 290 buts aujourd'hui. Le problème, c'est que là, il a quasiment atteint ce qu'il a fait en 10 ans, en un an à Stuttgart. Donc, il est quand même, potentiellement, on peut dire que le mec surperforme.
Je pense qu'il surperforme. Après, je pense aussi que le championnat allemand est potentiellement un championnat qui correspond beaucoup plus à ses qualités, parce que, en fait, il a ce physique, presque 1m90, où on a l'impression, et c'est pas forcément qu'une impression qui peut être un peu pâteau, qu'il est bon dans le dojo dos au but, mais que par contre c'est pas forcément une grande finesse. Et le fait qu'il y ait plus d'espace en Bundesliga lui permet aussi de mieux s'exprimer. Oui, mais bah effectivement, il est complètement on fire. Je crois qu'il a mis, il a dû mettre 3 doublés et un triplé. Ou deux doublés et un triplé.
Deux triplés, deux doublés, je crois.
Ouais, voilà. Enfin, c'est juste, il est donc à 17 buts toutes compétitions confondues, 15 en championnat. En 9 matchs, puisqu'il en a donc manqué 2, il est à 2 buts de Kane, mais du coup, il a un meilleur ratio que Kane sur le championnat.
Ah non, mais ça, c'est des gros stats. Je rappelle juste à tout le monde que c'est un championnat qui a vu Anthony Modeste finir à 25 buts, Hudson Edouard être une énorme star, Jean-Philippe Mateta être recruté 30 millions pour les mêmes raisons, Colomoy
à la Sampdoria surperformer, Rami Ben Sebaini être un des meilleurs latéraux du championnat.
Moi, je vois que des joueurs surperformer en Allemagne et pas réussir ailleurs qu'en Allemagne, donc tant mieux pour lui s'il réussit là-bas.
Je conçois. Mais en tout cas, le fait est que s'il fait sa carrière en Bundesliga, surtout pour lui, c'est aussi un, mine de rien, il y avait eu l'échec au Stade Rennais. Finalement, c'est très belle saison. Enfin, c'est très belle saison. Là où il s'était révélé, c'était à Amiens, mais sinon, et à Laval quand il a commencé en Ligue 2, mais il n'y a jamais eu plus que ça. Mais il y a aussi une revanche personnelle entre son échec à Rennes, mais aussi son échec qu'il avait connu en Bundesliga quand il était plus jeune. Parce qu'il avait fait 2-3 saisons à Cologne, où il avait été beaucoup blessé, il avait très peu joué, très peu marqué. En plus, Cologne était descendu en Bundesliga 2. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté revanche personnelle sur ces 3 années 2016 à 2019 passées en Allemagne qui n'avaient pas été forcément.
Après, moi, juste succès, pour préciser, je te redonne la parole, Val. Moi, je ne le considère pas comme un énorme flop au Stade Rennais. C'était juste un joueur moyen qui dépannait, etc. Mais au moment où on a commencé à prendre de l'envergure, il n'est plus à place. Mais je ne le considère pas comme un gros échec.
Non, mais ce qui est fou cette année, c'est bon, comme le disait Flo, avec les espaces, etc., c'est la qualité de ses buts. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les 15 buts qu'il marque. Ça vient de partout. Tu as de la tête, tu as des frappes du gauche, tu as des frappes de l'extérieur de la surface, tu as des petits piquets.
Est-ce qu'on peut parler de son triplé à Mayence avec ce héros tête lobée sur le gardien ensuite?
Mais c'est le triplé parfait en plus, pied gauche, pied droit de la tête, etc. Et pour compléter ce que tu disais, Jules, sur les statistiques, l'année dernière, il performait pas par rapport à ses XG. Il était même un peu en sous-performance. Cette année, il est à 9 XG pour 15 buts marqués. Donc, il est clairement en surperformance, un petit peu à l'image de l'équipe aussi, en tout cas sur le début de saison, qui était, je crois, aux alentours du 20 octobre, à 15 XG pour 23 buts marqués. Ça s'est équilibré depuis, ils sont revenus quasiment à un niveau de performance normal, ce qui est aussi dû à l'absence de Guirassy justement pendant ces deux matchs qu'ils ont perdus. Mais voilà, c'est une équipe qui au début de saison performait et aujourd'hui est plutôt dans ses standards. Donc c'est pour ça que la question de savoir si c'est un club qui mérite sa troisième place est intéressante en fait.
Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que la valeur étalon de cet effectif, c'est vraiment Serhou Guirassy. Sa réussite, parce que.
Il faut le répéter encore une fois, Serhou Guirassy, quoi.
Dès que Serhou Guirassy marque, et dès qu'il met un doublé ou un triplé, et donc ça s'est passé 3 fois, à chaque fois, il y a eu des branlés. Il y a eu quand même 2 fois 5 buts et 2 ou 3 fois où le club en a passé 3. Et à l'inverse, on parlait de ces 2 défaites. Sur les 3 défaites, il y en a 2 quand Guirassy n'est pas là. Et il revient et ils arrivent à taper Dortmund dès le retour de Guirassy, donc c'est assez fou. Mais juste, il y a un autre truc aussi dont je vous ai parlé, même si. Quand il a dû prendre le poste de titulaire, ça n'a pas été forcément un très bon remplacement. Mine de rien, il y a Denis Zundav, dont on avait parlé dans une émission il y a un an et demi, qui appartient à Brighton, mais qui à l'époque avait crevé l'écran avec l'Union Saint-Gilloise, qui épaule très bien, qui remplace très bien en cours de jeu ou sur les matchs où il est absent, Serhou Guirassy. Alors quand il n'était pas là du tout, Guirassy, c'était plus compliqué parce qu'il apporte beaucoup, mais il est quand même déjà à 5 buts cette saison. Donc Denis Zundav aussi a son importance dans cet effectif.
Tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai qu'on en avait parlé. Je pense qu'il était très très bon à l'époque à la Royale Union Saint-Gilloise. Et du coup, Val, tu nous parlais du classement. Moi, je voulais mettre une petite précision aussi, dire que voilà, comme dans pas mal de championnats européens, étonnamment cette année, on est quand même aussi sur un, même s'ils font un très bon début de saison, hein, c'est pas la question, mais on est aussi sur un début de championnat en Allemagne où les outsiders sont pas exactement au niveau. Enfin, je veux dire, on a un Dortmund, un Leipzig au ralenti. Enfin, potentiellement, on peut faire la même émission avec Stuttgart qui est 5e.
Oui, mais ils les battent. C'est ça la différence aussi avec les...
Mais en même temps, Dortmund, j'ai l'impression que là, bientôt, beaucoup de gens vont les battre.
Oui. Et moi, j'avais juste un dernier petit joueur, parce qu'on a beaucoup parlé du centre de formation dans cette émission de Stuttgart. Alors, je me suis un petit peu renseigné sur savoir qui pouvait être potentiellement le prochain joueur à percer. Alors, justement, Flo, tu parlais de Silas, qui est l'ailier droit. Il a un remplaçant aujourd'hui qui est Leweling, qui lui aussi a ses problèmes de finition, puisqu'il n'a pas de statistiques encore cette année. Et du coup, ça laisse un petit peu de place dernièrement pour un petit joueur qui s'appelle Luca Raymond, qui est un jeune joueur de 18 ans qui est donc formé au club et qui gratte un peu de temps de jeu à gauche et à droite depuis le début de la saison, avec des entrées qui sont assez intéressantes. Et justement, Le directeur sportif a fait un petit peu pression, enfin a mis un petit peu la pression sur ces deux joueurs-là pour justement dire faites gaffe les gars derrière, si vous performez pas, il y a d'autres petites pépites du centre de formation qui pourraient arriver et voilà et qui pourraient suivre justement la trajectoire de Chris Furic à Stuttgart.
Bah écoute, on va suivre ça de près ou de moins près.
Ce pour qui est bien, c'est que personne me le rappellera si c'est un échec.
Ouais, c'est normalement et mais inversement, peut-être qu'on te le rappellera s'il si perce.
Voilà, c'est pour ça que je me permets de faire des trucs comme ça.
Du coup, les gars, juste pour finir sur ce sujet-là, on va prendre un peu vos avis sur ce que vous voyez pour au moins, on va dire, la fin de saison de Stuttgart, parce qu'a priori, ils ne changent rien à comment ils bossent. Ils peuvent passer de jouer les barrages à jouer la Ligue des Champions, donc on ne va pas trop se prononcer sur les 3-4 années qui viennent, mais au moins sur cette saison-là, qu'est-ce que vous voyez pour le club allemand?
Moi, je pense que ça va finir par rentrer dans l'ordre. Après, est-ce qu'ils peuvent attraper une place en Europa League ou en Europa Conférence pourquoi pas, parce qu'effectivement, je trouve que cette année, la Bundesliga, il n'y a pas de grosse équipe qui se détache. Et oui, Dortmund, Leipzig et le Bayern vont finir par remonter, mais derrière, c'est assez ouvert. Offenheim est un peu en dessous de ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Wolfsburg,
et le pareil. Bayern aussi, quand même.
Et le Bayern, évidemment. Francfort, pareil, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu voir ces dernières années. Gladbach.
L'Union est au fond du trou.
Comment ?
L'Union est au fond du trou.
Et l'Union est au fond du trou. Et justement, c'était un peu le parallèle que je voulais faire. Il y a potentiellement cette voie-là à suivre de l'Union sans espérer finir au fond du trou comme l'Union cette saison, même si on espère pour eux qu'ils vont dresser la barre. Mais il y a peut-être ce côté-là à aller chercher. Ce qui est assez... Là où j'ai envie d'espérer, c'est qu'il y a toujours ce côté bonne formation. Ils arrivent à les dénicher aussi de bons joueurs ailleurs quand il y a besoin.
Ouais, il y a des infrastructures.
Il y a des infrastructures. Le stade, donc, qui date de 1933, a été rénové en 2006. Il est encore en travaux pour augmenter et pour moderniser le stade en vue de l'Euro 2024. Et il y a surtout économiquement un nouveau truc, c'est que le groupe Porsche est arrivé au capital à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Et a priori, c'est aussi pour un investissement sur le long terme. On connaît de toute façon le système allemand du 50+1, mais ça va quand même apporter aussi de la sérénité économique. Tout en gardant ce côté local parce que bah, Porsche a son siège à Stuttgart. Maintenant, Stuttgart,
c'est typiquement allemand, ça.
Exactement, sauf que Stuttgart, c'est un peu comme Francfort, c'est une grosse ville, très très dynamique économiquement, avec des grosses industries derrière. Il y a une capacité incroyable pour faire un gros club, mais dans l'histoire, ça a jamais vraiment cliqué sur le long terme. Est-ce que là, avec Porsche derrière et avec un projet sportif qui peut commencer à être sexy, ça va être le cas? Je sais pas. Mais en tout cas, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense qu'ils peuvent accrocher une place en Coupe d'Europe pour revenir à ça en Europa Conference League et dans les 8 premiers et ensuite essayer de progresser un petit peu chaque année.
Bah, rien à redire sur le court moyen terme là, d'ici la fin de saison par rapport à ce que dit Flo. Je ne les vois pas quasiment dans cette même situation-là. Après, je suis curieux de voir ce que va donner cette politique d'assainissement de la direction et curieux de voir aussi si l'efficacité qui est celle de Sébastien Hoeneß depuis qu'il est arrivé au club va perdurer. Et quand je dis perdurer, c'est plutôt en réponse à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est est-ce que le club va réussir à se recaler dans cette zone de 4 à 10, allez, en fonction des années, en fonction des projets sportifs, etc. C'est plutôt là que est censé situer le club. Hein. Je le rappelle, c'est le 8e club de en termes de sociaux et toutes les infrastructures qu'il y a derrière le prouvent aussi. Donc, je ne sais pas. J'ai du impossible à me projeter quand on voit l'irrégularité de ce club ces dernières années. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place qui laissent penser qu'ils pourraient retrouver un petit peu cette place-là dans le championnat.
La question, ça va aussi être si ça continue de bien marcher, est-ce que Sébastien Hoeneß va rester et va pas être attiré par un plus gros club? On ne sait pas forcément, même si Nagelsmann a pris la suite, ce qui va en être de la sélection allemande.
Son échec à Offenheim lui a fait pas mal de mal en termes d'image.
Oui, exactement. Son échec lui a fait pas mal d'image. Mine de rien, il y a aussi ce nom qui est quand même pas forcément facile à porter dans le foot allemand. Mais quand on voit les difficultés de clubs peut-être un peu plus gros aujourd'hui, en tout cas que Stuttgart, comme Dortmund, évidemment, mais même comme Schalke ou Hambourg, si jamais ça vient à remonter un jour, comme Wolfsburg ou comme Francfort.
Bah ça, c'est le problème des clubs qui jouent tous pareil. Hein.
Ouais, et moi, je me pose aussi la question forcément de Leipzig. On sait que Leipzig a vu passer dans ses académies ou dans ses différents clubs et dans ses équipes de jeunes beaucoup d'entraîneurs qu'ils ont ensuite rapatriés. Je vois gros comme une maison dans les 2-3 années qui viennent, Leipzig rapatrier justement Sébastien Hoeneß.
Oui, si ça continue, hein, ça peut s'écrouler. Hein. Je vous rappelle que c'est une équipe qui a une Seru-Guira dépendance, donc ça tient à quand même pas grand-chose. Bon, les gars, merci. Rien à rajouter avant qu'on conclue.
Non, on est pas mal.
Écoutez, donc voilà, un peu, c'est un peu la première fois, on va dire, qu'avec Poteau Carré, on fait un épisode sur un club qui est un peu une anomalie, entre guillemets, parce que c'est pas, on peut pas dire que ça bosse de manière remarquable, mais ils sont là, donc on devait un peu en parler. Après, en plus, ça reste quand même, comme on l'a bien rappelé dans la partie historique, que ça reste une institution dans le foot allemand, donc c'était cool de pouvoir en parler un peu et de les remettre à leur place. Val, tu voulais dire un petit mot?
Ouais, en fait, j'ai juste une petite anecdote sur le président Klaus Günther Vogt. Il milite beaucoup, notamment, pour un projet qui s'appelle le FC Playfair. Alors, c'est une traduction de l'allemand, donc je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais qui est une association, en fait, qui a pour objectif de faire reconnaître la culture des supporters de football au niveau de l'UNESCO comme un bien culturel digne de protection. Voilà, j'ai trouvé ça cool, nous qui nous intéressons pas mal, notamment à travers Sous le Capot, à cette culture du supporterisme, de le
Donc,
mentionner, parce que je trouve que le projet est cool.
Non, mais il n'y a pas à dire, hein,
belle
les Allemands
petite
ont compris du
anecdote.
vivre ensemble.
Bah...
Ça va peut-être un sujet de sous le capot ou même de carton vert, remarque un peu, hein,
Exactement.
pour en discuter un petit peu. Ok, bon, bah, écoutez les gars, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous de continuer à nous suivre. On ne se lâche pas jusqu'à la fin de l'année. On va sûrement refaire un épisode au moins une fois sur les défenses pourries de Bundesliga. Mais en tout cas, dans 15 jours, on revient dans notre bonne vieille Ligue 1. Putain, c'est horrible. Il y a de moins en moins d'équipes ou de championnats qui m'enthousiasment pour en parler parce que, comme on le disait, c'était bien triste cette année. Mais bon, on ne perd pas espoir. Après la trêve, tout peut repartir et on va avoir des fins de championnat assez folles. Allez, bonne journée à tous. Et tenez le coup dans ce mois de novembre dégueulasse.